Paysage vibratoire. L'émission de poésie Un habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio. Eh bien, bonsoir, messieurs, dames. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle session, pour une nouvelle émission de poésie. Tous azimuts, tous horizons, toute époque, pour vous charmer, pour vous faire du bien. Voilà, je reçois ce soir Réjeanne Meillet et Denise Candreau. Bonsoir, mesdames.
Bonsoir.
Voilà, et bien sûr, c'est l'heure des haïkus de printemps, ces deux circonstances. Marée de printemps, dans tout mon corps, la sirène du bateau, Yamaguchi Saishi. Du fleuriste, le bruit des ciseaux, je fais la grasse matinée, Ozaki Osei. Retombé au sol, le cerf-volant a égaré son âme, Kubota Kuonta. Le fil du cerf-volant, dans le ciel, il se noie. Sur le doigt, il se voit. Yamaguchi Saishi. On laboure les champs. Même le nuage immobile s'en est allé. Yosabuzon. D'une voix jaune, le rossignol appelle ses parents. Kobayashi Issa. Premier titre de la soirée, j'ai choisi Zaz en public, ébloui par la nuit.
Tour de piste avec la main au bout. J't'ai attendu chantant dans les rues en noir et blanc. Tu es venu en sifflant.
Oui, ben merci beaucoup Zaz. Bien, on enchaîne avec Réjeanne.
Alors, aujourd'hui, je vous parle de... Je vous lis un poème de Charles Baudelaire, donc fin 19e, 1821-1867, dont le titre est « Chacun sa chimère ». Et je trouve qu'il résonne pas mal avec le nouveau livre de Fred Vargas, « L'humanité en péril ». Voilà, « Chacun sa chimère ». Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère, aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourmillement d'un fantassin romain. Mais la monstrueuse bête n'était pas un point inerte. Au contraire, elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants. Elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture, et sa tête fabuleuse surmontait le front de l'homme, comme un de ces casques horribles par lequel les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi. Je questionnai l'un de ces hommes, et je lui demandai où il allait ainsi. Il me répondit qu'il n'en savait rien, ni lui, ni les autres, mais qu'évidemment ils allaient quelque part, puisqu'ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher. Chose curieuse à noter, aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son cou et collée à son dos. On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir. Sous la coupole splénétique du ciel, les pieds plongés dans la poussière d'un sol aussi désolé que le ciel, ils cheminaient avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. Et le cortège passa à côté de moi et s'enfonça dans l'atmosphère de l'horizon, à l'endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain. Et pendant quelques instants, je m'obstinais à vouloir comprendre ce mystère. Mais bientôt, l'irrésistible indifférence s'abattit sur moi, et j'en fus plus lourdement accablé qu'ils ne l'étaient eux-mêmes par leur écrasante chimère.
Écrasante chimère, bête très lourde, n'est-ce pas ? Oui, c'est tout à fait d'actualité.
Alors j'ai trouvé que c'était vraiment...
Je pense que beaucoup poursuivent des chimères et des idéologies qui peuvent être dangereuses. L'histoire
nous
rappelle à nos consciences, n'est-ce pas ? Mais certains ont peut-être la mémoire courte. Très bien, on enchaîne avec Denise.
Alors moi je vais continuer aussi sur de la littérature anticonformiste avec Henri Michaux, donc un poète belge, naturalisé français, qui a vécu donc... de 1899 et qui est mort au XXe siècle, 1984. Il s'installe en 24 à Paris et publie « Qui je fus ». Et donc je vais vous lire un poème de ce livre « Qui je fus ». Ça s'appelle « Traduction ». Je me blague et me siroule. Dans le fond, je me déruse. Rien ne tient bon. J'ai beau regarder, sa serre fule et se range, Clermont sonne et Ferrand répond, saute rue satisfaite, ça promet. Mais que s'isolent les envieux et les torbus, et tout, laisse donc pérouser les aigres maigres. Pour moi, je retourne à l'eau de l'océan. Adieu. J'ai entendu le claquerin des paquebots, j'embarque. Or, vieille habitude, j'y suis peu de chose. Mais j'ai dans mes doigts la façon de 12 nœuds de matelot et faire bâbord, tribord sur mes jambes. J'aime ça. Par très mauvais temps, j'ai ma grippe au grand pelé, l'oreille contre. Ça fait toutes sortes de bruits. Entre deux rafales, je regarde venir les houlons crêtés de sa brouse. Et puis parfois, cette grosse eau se fait si calme et comme agonisante. On se sent profondément heureux. À peine si elle se craquelle de quelques rides et plis, comme ce qui tient et broquetille sous l'œil d'une vieille femme. Alors oui, je vais dire quand même qu'Henri Michaux avait fait des études de médecine, avait arrêté ses études de médecine et s'était engagé comme matelot. Voilà.
D'accord. Okay.
C'est important.
Voilà, et puis bon, il joue avec les mots quand même.
Hein, il joue beaucoup avec les mots.
Voilà, ouais, il se régale quoi. Hein.
Alors il dit aussi s'être inspiré de Lautréamont, qui avait écrit sur l'océan. Voilà, qui sera mon deuxième texte.
D'accord, très bien. Ça fera la transition pour tout à l'heure. Bon, bah, écoutez, c'est la pause musicale. Et qu'allons-nous écouter ? Eh bien, Fool's Garden, Lemon Tree, wow, un classique.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, it's just a yellow lemon tree.
Vous êtes à l'écoute de CFM Radio et vous faites bien, et surtout d'écouter cette petite émission, n'est-ce pas, tardive, puisqu'elle est programmée à 22h. Je tiens à souligner, comme ça, en guise de rappel, qu'elle est rediffusée le dimanche aussi à 17h et qu'on peut consulter, oh, vive la modernité, cette émission en podcast, et oui, mais oui, c'est comme ça. Alors, quant à moi, ben, je poursuis toujours. Et encore, le cycle Paul Éluard. Alors, Paul Éluard, ben, c'est toujours la tourmente, puisque ce sont les années noires, 1944-1945. Mais, voilà, bon, on s'approche de la libération, on sait qu'il avait dû se cacher dans un hôpital psychiatrique, il était engagé, n'est-ce pas, dans la résistance, il avait repris sa carte au Parti communiste, voilà, ça c'est ses idées politiques. Mais en tout cas, pendant tout ce temps de ténèbres, malgré la botte nazie, il n'a cessé d'écrire. Et ça, je trouve très beau, parce que ça participe également au combat contre la médiocrité et la terreur. Alors, en 1944, retour à Paris, il écrit Le lit, la table. Il publie Les armes de la douleur pour la libération de Toulouse. Il fonde un journal clandestin, L'éternelle revue. Mois d'août, le poète sort de la clandestinité et publie une somme de poèmes écrits dans la résistance, digne de vivre, au rendez-vous allemand, à Pablo Picasso. Il reçoit la médaille de la résistance. 1945, en avril 1944, Paris respirait encore, c'est un de ses poèmes. Il écrit aussi « Double d'ombre, lingère légère, une longue réflexion amoureuse et le vœu ». Quant à moi, j'ai choisi ce soir 1944, l'essence. Rien, sinon cette clarté, la clarté de ce matin qui te mènera sur terre. La clarté de ce matin, une aiguille dans du satin, une graine dans le noir, œil ouvert sur un trésor. Sous les feuilles, dans tes pommes, le jeu grisant des aumônes chaudes. Le grand risque des refus, blême. Sur les routes du hasard, le mur dur perdra ses pierres. La clarté de ce matin, dévêtue de tous mes regards, tes seins, tous les parfums d'un bouquet. De la violette au jasmin, en passant par le soleil, en passant par la pensée. Le bruit de la mer, le bruit des galets, la mousse et l'odeur de la fleur du bois. Le miel, l'odeur du pain chaud. Duvet des oiseaux nouveaux. La clarté de ce matin, la flamme qui t'enfanta, qui naît bleue et meurt en herbe, premier regard, premier sang, dans un champ de chair touchante, les premiers mots du bonheur rafraîchissent leur ferveur sous des voiles de rosée. Et le ciel est sur tes lèvres. Deuxième texte, fresque. J'étais celui qui se promène, le nez en l'air, avec son chien le nez par terre. J'étais aussi celui qui cueille des violettes et qui se fait des baguettes pour faucher les hautes herbes. Je jouais, je criais, je m'attaquais aux fillettes, mes mains petites et légères ne connaissaient que leur mystère. La mort n'avait jamais tranché de rien, je l'ignorais. Elle ne passait pas encore par mes oreilles, la vie était parfaite. Et enfin, l'aube dissout les monstres. Ils ignoraient que la beauté de l'homme est plus grande que l'homme. Ils vivaient pour penser, ils pensaient pour se taire. Ils vivaient pour mourir, ils étaient inutiles. Ils recouvraient leur innocence dans la mort. Ils avaient mis en ordre, sous le nom de richesse, leur misère, leur bien-aimé. Ils mâchonnaient des fleurs et des sourires, ils ne trouvaient de cœur qu'au bout de leurs fusils. Ils ne comprenaient pas les injures des pauvres sans souci, demain. Des rêves sans soleil les rendaient éternels, mais pour le nuage se changea en boue. Ils descendaient, ils ne faisaient plus tête au ciel. Toute leur nuit, leur mort, leur belle ombre, misère, misère pour les autres. Nous oublierons ces ennemis indifférents. Une foule bientôt répétera la claire flamme à voix très douce. La flamme pour nous deux, pour nous seuls, patience. Pour nous deux, en tout lieu, le baiser des vivants. Eh bien, je crois que nous écoutons Réchan.
Alors moi, je vais vous parler de Thomas Vineau. C'est un poète qui est né en 78. Il fait partie d'une catégorie de poètes à lunettes qui fument et ont un chien. Militant du minuscule, il décortique le monde d'un regard tendance rêveur. Il n'a aucune illusion sur la condition humaine, fait tout ce qu'il peut pour ceux et nous la rendre supportable. Auteur prolixe à textes courts, il possédait une bibliothèque impressionnante pour un homme si jeune. Il possède des cabines, également un cabinet de curiosité, une maison avec une terrasse dans toutes les directions, une panoplie de Spider-Man et touche les royalties sur sa part de nuages. Lire Thomas Vineau, c'est retrouver quelque chose de l'enfance et de son immensité dans trois fois rien. Des simples vérités dérisoires sous une plume sentimentale. Et ce n'est pas un gros mot. Il le dit lui-même, je ne tords pas la langue, je l'élague. Je ne chante pas le monde, je le chuchote. Et voilà quelques chuchotis. Les petites joies. Calé sur une chaise longue, dans le jardin bleu de la nuit, je me sens bien, assis dans l'ombre, à zioter la voie lactée. à penser aux gens que j'aime en tirant sur ma clope. Je cuve les petites joies de ma vie. La lumière n'a pas besoin de stylo. Le bruit de mes pas sur la neige, l'appel d'une buse, la goutte d'eau figée à la pointe d'un barbelé, les traces du chevreuil qui vont se perdre dans les bois. Aujourd'hui, le poème s'est écrit sans moi. Puis encore, des jours de peu, des mots de peu, des musiques simples. La lumière de chaque jour, anodine et merveilleuse. Écrire plus serait écrire faux. Composer, penser, pourquoi vouloir plus ? Le rien, c'est tout ce qu'on a.
Merci, Réjeanne. Alors, petite question, t'as pas de tenue de Spider-Man, toi ?
Je ne collectionne pas des tenues-là.
Tu n'as pas besoin. Ça t'empêche pas d'écrire.
Exactement.
Catwoman, peut-être ?
Ah, mais je vois que...
Bah oui, quand même.
Ouais, mais Catwoman, elle sort de toi en toi.
Ah, hein, oh, mais je vois bien Réjeanne.
Bon, ok. Et toi, alors
Alors moi, ben, évidemment, suite à Henri Michaud qui s'intéresse à Le Tréamont, j'ai extrait un petit texte des Chants de Maldoror qui sont très très longs, une prose impressionnante. Et le comte de Lautréamont, c'est un pseudonyme en fait. Il s'appelle Isidore Lucien Ducasse, il est né à Montevideo, il est de nationalité française. Donc c'est le 19e, il est né en 1846 et il n'a pas pu écrire beaucoup car il est mort à 24 ans. Et donc déjà il a écrit les Chants de Maldoror, poésie et des lettres aussi pour introduire les œuvres précédentes. Alors voilà, c'est très long, hein, il y a plus de 142 pages. Donc je vais commencer par ça. L'homme s'est cru beau dans les siècles. Moi je suppose plutôt que l'homme ne croit à sa beauté que par amour propre, mais qu'il n'est pas beau réellement et qu'il s'en doute. Car pourquoi regarde-t-il la figure de son semblable avec tant de mépris ? Je te salue, vieil océan. Vieil océan, tu es le symbole de l'identité, toujours égal à toi-même. Tu ne varies pas d'une manière essentielle, et si tes vagues sont quelque part en furie, dans quelque autre zone, elles sont dans le calme le plus complet. Tu n'es pas comme l'homme qui s'arrête dans la rue pour voir deux bulldogs s'empoigner au cou, mais qui ne s'arrête pas quand un enterrement passe. Qui est ce matin accessible ? Et ce soir de mauvaise humeur, qui rit aujourd'hui et pleure demain. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, il n'y aurait rien d'impossible à ce que tu caches dans ton sein de futures utilités pour l'homme. Tu lui as déjà donné la baleine. Tu ne laisses pas facilement deviner aux yeux avides des sciences naturelles les mille secrets de ton intime organisation. Tu es modeste. L'homme se vante sans cesse et pour des minuties. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, les différentes espèces de poissons que tu nourris n'ont pas juré fraternité entre elles. Chaque espèce vit de son côté. Les tempéraments et les conformations qui varient dans chacune d'elles explique d'une manière insatisfaisante ce qui ne paraît d'abord qu'une anomalie. Il en est ainsi de l'homme qui n'a pas les mêmes motifs d'excuse. Un morceau de terre est-il occupé par 30 millions d'êtres humains, ceux-ci se croient obligés de ne pas se mêler de l'existence de leurs voisins, fixés comme des racines sur le morceau de terre qui suit. En descendant du grand au petit, chaque homme vit comme un sauvage dans sa tanière et s'en sort rarement pour visiter son semblable, accroupi pareillement dans une autre tanière. La grande famille universelle des humains est une utopie digne de la logique la plus médiocre. En outre du spectacle de tes mamelles fécondes se dégage la notion d'ingratitude. car on pense aussitôt à ses parents nombreux, assez ingrats envers le Créateur, pour abandonner le fruit de leur misérable union. Je te salue, vieil océan.
Merci, Denise. Bon, il y a un petit côté désabusé, quand même, hein, la famille humaine qui est...
Il avait 20 ans, hein.
Ouais, 24 ans, c'est tôt pour partir, quand même.
Ouais, et quand il a écrit, il avait 22, je crois.
D'accord, ouais, ouais. En tout cas, on espère qu'il y aura toujours des baleines dans l'océan.
Ben, on espère bien.
Voilà. Ben, je terminerai donc par le dernier texte de ce soir, bien sûr. Toujours Paul Éluard. Un rêve où tout est inventé. À Luc de Cône. Dans la brume des statues se dessinent, molles et dorées, molles et charnelles, elles prennent l'air. Étoiles fondues d'humaines étoiles, dans le linge simple et blanc du matin. Des statues douces comme des fruits blés, ayant conservé leur forme sacrée, leur écœurement, leur fièvre cachée, leur souffle torride, au mépris d'un arbre éteint par l'hiver. Boire étant l'honneur d'un jour envahi dès la première heure, velours des statues mouillées de vin doux, les faveurs nouées des bras et des coups, sont à la santé d'une aile immobile. Corps délibéré, rêve satisfait, immense repos, vaste nudité, d'une chair hostile à la chair des bêtes, sans frisson, sans rien, que l'angle majeur du règne établit. Ce qu'il faut voir à travers ce dédale, du temps non vécu, c'est l'œil de l'herbe et quelques doigts de terre, pour justifier le plomb de l'azur vert, le pur fardeau d'un geste, vers les astres. Voilà, ben, s'achève notre soirée. Merci beaucoup à Réjeanne et à Denise pour leur participation, leur recherche. C'est toujours intéressant, il y a toujours des petits détails qui satisferont, je pense, les auditeurs. Eh bien, on vous dit tout simplement la semaine prochaine. On remercie aussi à la sono Camille, qui ce soir, bien sûr, a mené le bateau tout seul derrière ses potentiomètres et son écran, assisté, bien sûr, du maître bienveillant, Monsieur Lucas. Voilà, poétiser votre vie, ça fait du bien, je n'ai de cesse de le répéter, et on vous dit à la semaine prochaine, bye bye. On se quitte, eh bien, on se quitte avec le titre final, qui est Matmata.
sèche tes larmes de soldat, tes larmes de mascara. Au Paris, ailleurs, ou ici-bas, ils ne l'emporteront pas, ils ne l'emporteront pas. C'est l'ironie du sort qui nous sauvera. Ils ne l'emporteront pas, ils ne l'emporteront pas. Au paradis, ailleurs ou ici-bas, ils ne l'emporteront pas, ils ne l'emporteront pas. C'est l'ironie du sort qui nous sauvera. Ils ne l'emporteront pas, ils ne l'emporteront pas.
Paysage vibratoire. L'émission de poésie en habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio.